Je domine sur la terre. Parole du Seigneur.
On recommence. On peut le relire, ce passage. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Et on va se mettre debout pour cela. C'est une parole solennelle. Et à un moment donné, il faut savoir honorer de telles paroles. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Encore une fois, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Que sa parole soit bénie. Soyez béni, béni et béni. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La dernière fois, je vous avais dit en passant, il y a un élément fondamental, incontournable dans la vie chrétienne. Et cet élément, c'est la prise de conscience de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas une véritable prise de conscience de qui est Dieu, je vous assure, ça va être compliqué pour nous de marcher comme il le veut. Ce qui fait qu'à un moment donné, lui-même, le Seigneur, il est obligé d'arrêter le peuple. Il dit, arrêtez à un moment donné. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors qu'en vérité, est-ce qu'il a besoin de le dire? Comment un Dieu peut-il arriver à un niveau où il demande aux hommes de reconnaître qu'il est Dieu? Justement parce que nous les hommes, on a un cœur ingrat. Nous les hommes, on est souvent indifférents. Alors qu'il a tout fait pour que nous puissions savoir qu'il est Dieu sans qu'il le dise par sa propre bouche. Il dit le monde, je vous ai placé dans un monde. Regardez la création, regardez l'univers. Ça devait normalement suffire pour que nous puissions arriver à l'évidence qu'il est Dieu. Mais se rend compte que malgré la création, l'univers, tout ce qu'il a créé, notre propre existence, on n'arrive toujours pas à comprendre. Alors, il est obligé de le dire. Mais en vérité, c'est dramatique. Parce que lorsque un responsable commence à rappeler qu'il est responsable, c'est qu'il y a un problème. Lorsque un chef de l'État commence à dire « Je suis quand même votre président », c'est qu'il y a problème. Quand Dieu arrive à un niveau, il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu », c'est qu'il y a problème. Le problème n'est pas à son niveau, le problème est à notre niveau. Parce que venant de la part de Dieu, ça doit quand même nous interpeller et nous perturber. Et quand nous lisons Ésaïe 59, on va lire ensemble, Ésaïe 59, le verset 1er. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de qui est Dieu. Lui-même nous ramène à l'ordre. En fait, c'est plutôt Ésaïe, chapitre 1er. Je suis allé dans l'autre passage. Ésaïe 1er, le premier chapitre du livre du prophète. Ésaïe 1er. Dieu parle. Et chaque fois que je lis ce passage, j'ai mal au cœur à la place de Dieu. Quand j'essaie un peu de me mettre à la place du Seigneur, je me dis, oh là là, Seigneur, si on arrive à parler ainsi, ben oui, Dieu est Dieu. Mais quand Dieu arrive à parler ainsi, ça doit réveiller l'humanité. Ésaïe chapitre 1er, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race méchante, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Il dit le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Quand vous lisez un tel passage prophétique, ça doit réellement vous pousser à réfléchir. Dieu n'est pas en train de parler à des êtres humains. Il est en train de parler à l'armée céleste. Il est en train de parler à la nature. Vous vous rendez compte? Dieu, entre guillemets, est en train de se plaindre de nous à sa création. Il dit aux cieux, il dit à la terre, il dit que mon peuple, là, j'ai nourri des enfants. Mais en d'autres termes, ce sont des ingrats. Ils sont révoltés contre moi. Il dit pourtant, il nous compare, même, il dit même les animaux sont même plus intelligents que nous. Il dit l'âne connaît la crèche de son maître. Le bœuf connaît qui est son possesseur. Mais il dit son peuple là, ne connaît rien, pas l'intelligence. Ça veut donc dire qu'à ce moment précis de l'histoire, l'homme devient même plus inférieur à un animal. Parce que Dieu dit même l'animal est plus intelligent que vous. Parce que l'animal connaît son maître. Il dit mais vous êtes toujours des électrons libres. C'est un véritable problème ça pour le Seigneur. Et donc Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Il dit voilà la création. Voilà l'humanité. Pourquoi? Parce que mon peuple ne prend pas conscience de qui je suis pour lui. C'est ça le problème. Et ça a toujours été ce problème de tout temps et de toute éternité. Israël n'a jamais pris conscience véritablement de la valeur et de l'importance de Dieu. C'est pourquoi il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Maintenant, comment? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, comment je vais leur faire comprendre que je suis Dieu? Qu'est-ce qu'ils veulent encore que je démontre pour qu'ils sachent que je suis Dieu? Quelle preuve veulent-ils encore pour qu'ils sachent que je suis Dieu? Quel miracle veulent-ils que je fasse encore pour qu'ils sachent que je suis Dieu? Quel prodige, quel signe veulent-ils encore pour qu'ils sachent que je suis Dieu? En fait, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que nous voulons encore pour savoir qu'il est Dieu? Qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse? Le problème, c'est que même quand il fait là, c'est juste pour un temps. On reconnaît là, il a fait, on dit Alléluia, merci Seigneur. Et comme Dieu ne fait plus, on oublie Dieu. C'est ça le problème. Il dit, mais vous devez savoir que je suis Dieu. Mais je ne suis pas Dieu seulement pour vous délivrer de vos problèmes. Je suis Dieu en tout temps. N'attendons pas seulement d'avoir les difficultés pour se souvenir qu'on a un Dieu qui est capable et qui peut libérer. Mais il est Dieu en tout temps. Maintenant, il faut qu'il y ait cette prise de conscience justement en tout temps. Pas la prise de conscience de Dieu que lorsqu'on est en difficulté. Parce que quand on est en difficulté, on se souvient qu'il y a le numéro de Dieu, je vais appeler Dieu. Mais quand il n'y a pas de difficulté, où est Dieu? Tant que l'homme n'est pas buté à un obstacle, il ne cherche pas Dieu. C'est ça le problème. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Arrêtez et sachez que je suis. Ça veut donc dire qu'il est. Arrêtez et sachez que je suis. En d'autres termes, j'essaie de comprendre maintenant. C'est-à-dire que si on s'arrête pour savoir qu'il est, donc après cet arrêt, quand on va remarcher, on va marcher maintenant et on comprend qui il est. Donc on s'arrête d'abord pour comprendre, réaliser qu'il est. Et nous reprenons la marche avec la compréhension qu'il est. Donc il est avec moi. Et je marche avec lui. Elle dit qu'à un moment donné, quand on ne réalise pas cela, vaut mieux s'arrêter d'abord. Pourquoi? Sinon après on gère des frustrations. On gère plein de situations qu'on aurait pu éviter. Alors nous allons lire ce matin des portions d'écriture par rapport toujours à notre sujet, puisque nous sommes en train de comprendre ce que c'est chercher le royaume de Dieu par rapport justement à l'évangélisation, à la vie chrétienne en général. Nous allons lire dans Luc 14. Luc 14, à partir Luc 14 à partir du verset 15. Nous lirons deux passages et je vais transmettre la pensée du Seigneur. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, soulignez bien le mot irrité, parce que nous reviendrons là-dessus, le maître de la maison irrité dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Matthieu 22. On terminera par là. Matthieu 22, verset 1er. Matthieu 22. Évangile de Matthieu, chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter, soulignez cela, c'est-à-dire prêtez attention à ce mot-là, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Encore une fois, au verset 7, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Que sa parole soit bénie. Lorsque nous lisons ces deux passages de l'Écriture, nous découvrons beaucoup de vérités au sujet de Dieu et bien sûr de nous. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'en dépit de tout, vous savez, l'homme peut s'excuser devant un autre homme parce que nous ne sommes pas, si vous voulez, nous n'avons pas toute la connaissance. Mais vous savez, devant un Dieu qui connaît tout, en vérité, on ne peut pas s'excuser. Suivez-moi très bien. On peut s'excuser devant les hommes, parce que les hommes sont limités. Mais devant un Dieu qui connaît tout, qui sait même pourquoi tu n'as pas répondu à un appel ou à une invitation, tu n'as pas raison de s'excuser. Devant Dieu, aucun être humain ne peut s'excuser. Devant Dieu, on est tous reconnus coupables. Pourquoi? Mais parce qu'il lui connaît. Donc, on ne peut pas s'excuser et se justifier devant un Dieu qui connaît tout. Voilà dans cette histoire des personnes qui reçoivent une invitation, un appel venant du roi. Mais vous avez remarqué dans la première histoire, c'est que les personnes qui reçoivent l'appel, l'invitation, vont décliner cette invitation. Et voilà les raisons du fait qu'ils n'aient pas accepté cette invitation. Le premier, il dit qu'il vient d'acheter un champ. Suivez bien, très bien, ce qui se passe dans cette histoire. Et souvent, en faisant une transposition, c'est ce que nous on fait avec Dieu. Le premier vient d'acheter un champ. Il reçoit l'invitation du roi, mais il dit, je ne peux pas venir. Et en plus, il dit, je viens d'acheter un champ, et il souligne quelque chose qui me choque. Il dit, je viens d'acheter un champ et je suis obligé, le mot obligé me dérange. Parce que c'était son champ. Il peut le voir à tout moment. C'était sa propriété. C'était son bien. Donc, dire qu'il est obligé d'aller le voir, il y a un problème. Il dit, je suis obligé d'aller le voir alors qu'on me dit bien, il vient d'acheter le champ, c'est pour lui. Il dit, je suis obligé d'aller le voir. Donc, je ne pourrais pas venir. Voilà une excuse qui ne tient pas la route. Le deuxième, il dit, je viens d'acheter des bœufs. Donc, je ne peux pas venir parce que je dois aller les essayer. Même chose. Les bœufs en question, c'était pour lui-même. Il pouvait les essayer à tout moment parce que c'était pour lui. Mais il dit, non, je ne peux pas. Ce qui est le plus important pour moi, je vais essayer mes bœufs. Vous savez, il y a certaines invitations qui ne se répètent pas tous les jours. Il y a certains événements qui se produisent qu'une fois dans la vie. Les bœufs, là, c'était pour lui. Il pouvait même le lendemain aller les essayer. Mais un événement qui est programmé, par exemple, le 14 juillet, vous n'allez pas le déplacer le 16 juillet. Vous n'allez pas encore en faire un autre le 20 juillet. Il y a des événements qui ne se produisent qu'une seule fois. Donc après, il faut faire le choix. Mais lui dit non. Il y a un événement, oui, mais moi, je préfère aller essayer mes bœufs. Une raison, une excuse qui ne tient pas la route. Troisième excuse, c'est un couple qui dit, nous, on vient de se marier. Et vous venez de vous marier. Où est l'incompatibilité entre le fait que vous soyez marié et venir justement à un repas? Raison de plus, vous êtes marié, ça ferait plaisir d'assister à un dîner, à un repas chez le roi. Donc pour eux, la raison de ne pas assister, de ne pas répondre à l'appel du roi, je préfère utiliser cette expression-là. La raison de ne pas répondre à l'appel du roi, c'est qu'ils viennent de se marier. L'autre, la raison de ne pas répondre à l'appel du roi, c'est que j'ai mes bœufs là, j'ai mon business, je dois d'abord faire passer ça avant. Il y a un appel du roi. Il y a une sollicitation du roi. Mais face à cette sollicitation, les hommes avancent des excuses. Et vous voyez bien que les excuses ne tiennent pas la route. Pourquoi je dis, devant un Dieu qui connaît tout et qui sait tout, nos excuses-là ne pèsent pas. Parce que Dieu sait très bien que quand on est honnête avec nous-mêmes, les excuses que nous avançons là, Dieu il sait qu'on peut faire autrement. Il le sait, c'est parce qu'on ne voulait pas. Ces gens-là, ils pouvaient bien assister. Mais en vérité, ils ne voulaient pas. Au lieu de dire clairement, on ne veut pas, ils trouvent des excuses et c'est ce qui se passe dans nos vies. Au lieu de dire, je ne voulais pas, au lieu de dire non, on trouve des raisons et des excuses. Et ça, frères et sœurs, c'est mal devant le Seigneur. Parce que Dieu, il connaît tout. Quand tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, on s'excuse. C'est pourquoi je préfère nous dire, en vérité, évitons de nous excuser. Quand on sait dans notre propre conscience qu'en fait, on ne voulait pas. Devant Dieu, tu veux pas, tu veux pas. Parce que nos excuses ne tiennent pas la route. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu voit dans quel état tu étais. Je prends un exemple à la prière. Elle est venue de la prière qui est programmée, par exemple, à 18h. La journée en question où la réunion de la prière était programmée, tu ne fais rien. Tu sais qu'il y a la prière. Je prends juste un exemple. Mais tu vas t'organiser à faire plusieurs programmes dans la même journée. Pas de problème. Mais il y a la prière. Or, la sagesse aurait voulu que dans la gestion de ta journée, que tu fasses tout pour que tu ne crées pas une situation qui va empiétrer avec ta rencontre avec, par exemple, le Seigneur. Mais toi, tu t'obstines, tu fais plein de programmes la même journée, et finalement, l'heure avance, et il reste quelques minutes, et tu sais que tu es peut-être très loin de du lieu de prière. Et donc, à ce moment-là, tu dis, mais l'heure est avancée, je ne pourrais pas venir parce que je vais arriver en retard. Et donc, tu te fais une bonne conscience, tu restes à la maison parce que c'était trop tard. Mais en vérité, si on fait le feedback, comment tu as géré ta journée? Quels sont les choix que tu as faits? Quelle est la place que Dieu avait dans cette journée-là pour que tu organises cette journée de cette manière? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on a des raisons, on a des excuses, mais en vérité, ces excuses devant Dieu ne tiennent pas la route. C'est nous qui sommes désordonnés. C'est nous qui sommes désorganisés. C'est nous qui ne mettons pas les priorités à leur place. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, n'a pas de problème. Le problème, c'est nous. D'où, je le disais le dimanche passé, quel regard avons-nous de Dieu? Parce que David, au regard de ses serviteurs, là, ses combattants là, qui étaient avec lui, David était tellement précieux qu'il ne voulait pas que David meure. Ils ont dit, toi, tu ne vas plus aller au combat avec nous, parce que toi, tu es la lampe d'Israël. On ne veut pas que la lampe d'Israël s'éteigne. Si nous, on peut nous tuer, mais pas toi, David, parce que tu es trop précieux. C'est toi le roi. Donc, ils protègent David au péril de leur vie. David a soif. Ils vont jusqu'au camp des Philistins, prendre de l'eau, ramener cela pour que David puisse être bien. Voilà des gens dont la façon de voir le roi était totalement différente. Pour eux, il était précieux, au prix même de leur propre vie. Il faut qu'on arrive là, parce que Jésus l'a dit, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre vie pour Dieu, on ne peut pas être disciple. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu sais que les intérêts de Dieu sont engagés, normalement, on doit répondre présent. Quand les intérêts du royaume de Dieu sont engagés, personne ne devrait être dribblé, le Seigneur. Quand il s'agit du royaume de Dieu, normalement, nous, ses enfants, on devrait être présents pour dire, Seigneur, me voici. Mais nous avons trop d'excuses. Alors que ces gens-là, regardez comment ils regardaient le roi. Or, nous lisons, il dit, recherchez premièrement le royaume. Et je vous avais dit, pour pouvoir mieux comprendre ce passage, c'est tout simplement le retraduire. Non, recherchez premièrement les intérêts de votre roi. Nous disons qu'il est notre roi. Est-ce que nous cherchons ses intérêts comme ces hommes-là cherchaient les intérêts de David? Ils n'ont pas dit que nous aussi, on a notre famille. Nous aussi, on a nos enfants. Pourquoi on va mourir pour David? D'ailleurs, il est seul. Non. Ils ont vu en David, il incarnait la lampe d'Israël, l'espoir de la nation. Ils ont dit, non, lui ne peut pas mourir. Il est trop précieux. Alors Jésus prend une image, il prend une parabole lorsqu'il parle du royaume. Il dit qu'il est semblable à quelqu'un qui a trouvé une perle précieuse et qui a tout vendu pour avoir cette perle-là. Question aujourd'hui, est-ce qu'il est précieux pour nous? Le bœuf de la vie chrétienne dans notre marche, il est à ce niveau-là. C'est pas que vous n'avez pas cru au Seigneur. Nous avons tous cru au Seigneur, mais il y a un bug dans notre vie chrétienne. C'est à ce niveau-là. On n'est pas prêt à renoncer pour le Seigneur. C'est là où ça bug dans la vie chrétienne. Si on est honnête, c'est là où ça bug. Et le Seigneur a bien fait de nous rappeler ça. Il dit, vous devez mourir. Vous devez renoncer à vous-même. En d'autres termes, cherchez mes intérêts. Alors, à un moment donné, le Seigneur est venu. Il leur a dit de venir, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et puis, ils ont marché avec Jésus. Et l'apôtre Pierre vient voir Jésus pour dire, mais écoute, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps qu'on est avec toi. On a abandonné, voilà, nos familles, nos femmes, etc. Mais c'est comment cette affaire-là? Parce que Pierre, à un moment donné, voulait voir clair, il dit, oui, on a tout abandonné. T'as dit, venez, on va faire pécheurs d'hommes. Mais on ne voit pas trop clair dans cette affaire. Là, Jésus doit rassurer Pierre, il n'y a pas de problème. C'est vrai, vous avez abandonné père, mère, champ, etc. pour moi. Mais Jésus leur fait quand même la promesse que même dans le siècle présent, là, vous allez recevoir au centuple. Il le dit. Mais avec un bonus. Le bonus, c'est la persécution. Il dit, vous recevrez au centuple sur la terre, mais avec des persécutions. Ce qui fait que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un soldat. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un soldat. C'est pas la vie d'un prince héritier tout tranquille, peinard, tout va bien dans le meilleur des mondes. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un soldat. C'est la vie d'un athlète. Où il y a de la discipline, où il y a de l'effort, où il y a des combats. C'est la vie du chrétien. Donc, nous devons, frères et sœurs, véritablement nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous savons qu'il est Dieu? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce que nous savons qu'il est Dieu? Aujourd'hui, nous avons vulgarisé le nom Dieu. On dit Dieu, je prie Dieu, je vais à l'église. Tout ça, ça a été vulgarisé, désacralisé. Alors que la notion même de Dieu est rattachée au sacré. Et le fait que nous avons le vrai Dieu, normalement, ça fait de nous des privilégiés. Notre vie, elle est désormais dépendant de ce Dieu-là que nous disons qu'on a le Dieu. Parce qu'on sait que c'est comme en Afrique, vous avez le totem, la statuette dans la maison, on se sent rassuré. On a le truc des ancêtres qui est là. On le sait. Dès que ça arrive chez vous, il y a une certaine crainte que dans ce cas, l'affaire est chez nous à la maison. Mais notre Dieu, au-dessus de tous les esprits, nous l'avons en nous, plus qu'une statuette là. Regardez, on vit comme si Dieu n'était pas là. Mais nous nous souvenons que Dieu est là quand on a des problèmes. On se souvient qu'il y a un Dieu qui est là, il faut faire le combat spirituel, il faut invoquer Dieu parce qu'il faut que Dieu peut faire. C'est ça le problème, nous sommes ingrats. Et ça n'a pas commencé avec nous en 2015, même avec Israël déjà ça avait commencé. Le cœur de l'homme est mauvais. Lui-même Dieu a témoigné du cœur. Et quand Dieu parle de notre cœur, il n'en parle pas avec des termes élogieux. Il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il dit il est mauvais notre cœur. En dépit de tout ce que je peux faire pour vous, vous avez un mauvais cœur. Regardez ce peuple-là, Dieu les a délivrés de la servitude. Ils sortent d'Égypte avec aussi des biens et des richesses. Dieu leur fait vivre le surnaturel, mais malgré tout ça, ils sont restés ingrats. Alors que je ne sais pas sur la planète de terre quel peuple a expérimenté ce que Israël a expérimenté avec Dieu. Même nous aujourd'hui on vit des bribes, hein, en passant des petites manifestations de Dieu, mais regardez eux ce qu'ils ont vécu. Mais malgré tout ça, le cœur était dur. Vous voyez les 10 plaies en Égypte, pour un temps oui, Dieu, après le cœur se renferme encore. Vous voyez la mer rouge s'ouvrir, les chars d'Égypte être engloutis par la mer, vous marchez à sec, mais malgré cela, le cœur est toujours dur. La nuit dans le désert, vous êtes conduit par une colonne de feu, malgré cela, le cœur est dur. La journée, c'est une colonne de nuée, parce que dans un désert, il n'y a pas de repère, pour des gens qui n'ont jamais fait le désert, malgré cela, le cœur est dur. Ils ont faim, Dieu envoie la manne. Malgré cela, le cœur est dur. Ils ont soif, Dieu permet que du rocher de l'eau sorte. Malgré cela, le cœur est dur. Les gens se rébellent, Dieu ouvre la terre. Les gens qui se sont rébellés ont été engloutis et puis enterrés vivants. Malgré qu'ils ont vu ça, mais le cœur était toujours dur. Mais qu'on veut expliquer le cœur de l'homme? Ils ont vu des choses qui dépassent, qui devaient me faire peur. Malgré tout ça, le cœur était toujours dur. Ce qui fait que de toute cette génération, il n'y en a que deux. Deux qui sont restés vivants. Le reste là, ils sont morts, ce sont leurs enfants qui ont vécu. Pourquoi? Le cœur de l'homme. On oublie vite. Tout à l'heure, je le faisais et c'est ma prière. Que je ne veux pas être amnésique, je ne veux pas perdre la mémoire, je ne veux pas oublier. En dépit des situations de la vie, du quotidien, je refuse d'oublier. De perdre la mémoire. Il n'y a rien de plus dramatique quand tu perds la mémoire. Hein? Surtout quand tu as eu toute une vie derrière toi et tu perds toute ta mémoire. Mais finalement, je me rends compte que la mémoire est précieuse. J'ai suivi un film d'une personne qui a perdu la mémoire, elle a tout perdu. Donc elle ne se souvient même pas qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants et tout cela, elle a tout perdu. Et pendant que je regardais ce film, parce que Dieu me parle beaucoup à travers la télé, tout cela, tout en réalisant, je me dis, mais si moi-même là je perdais la mémoire, est-ce que je me souviendrais même de la bonté de Dieu? Est-ce que je serais reconnaissant à l'égard de Dieu? Mais si je perds la mémoire aujourd'hui, là, est-ce que je me souviens même que je suis un enfant de Dieu, je suis converti? Quelle sera ma vie? Puisque j'ai tout perdu. Alors, frères et sœurs, n'oublions pas, ne perdons pas la mémoire, mais ce que Dieu a déjà fait, appuyons-nous sur ça. Parce que quand Dieu il parle comme ça, là, il dit aux animaux, il dit à la terre, au ciel, il dit voilà, j'ai élevé des enfants. Ça dit que ça fait mal, c'est comme quelqu'un qui se plaint, il dit mais moi j'ai élevé Israël, c'est mon peuple, je l'ai fait sortir. Je les ai nourris dans le désert. Pendant 40 ans, lui-même, il dit que vos vêtements ne se sont pas usés. Les pieds n'ont pas gonflé. J'ai veillé même à ce que dans la marche, là, les pieds restent en bonne santé. Il dit, mais le peuple était toujours ingrat. Dieu lui-même, il parle. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais non, nous, on fait quoi? On se dit, oh, mais Dieu, il exagère. Dieu savait que c'était comme ça. Moi, je continue dans ma lignée. Ou bien nous allons nous inscrire dans la catégorie de ceux qui ont compris qui est Dieu et qui devront chercher les intérêts de Dieu. On fait quoi? Parce que dans tous les cas, entre nous et lui, qui a plus besoin de l'autre? C'est nous. Même quand nous sommes dans un semblant de bien-être social, matériel, en vérité, qui a plus besoin de l'autre? C'est nous qui avons besoin de Dieu. Même quand la tempête n'a pas encore, ne s'est pas encore levée et que tout semble être calme dans notre vie, tout semble réussir dans la vie d'une personne, en vérité, entre nous et lui, qui a besoin de l'autre? C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alors, si nous, on a besoin de Dieu, mais comment se fait-il que nous qui avons besoin de Dieu, mais on a besoin de lui que quand ça ne va plus? Tout ce qui concerne ses intérêts, on dit non, j'ai pas le temps. Mais quand il s'agit de nos intérêts, il faut absolument que Dieu fasse. Vraiment, je vous donne le sujet de prière. Voici les intentions de prière. Je veux que Dieu m'ouvre la porte. Je veux que Dieu guérisse un tel. Je veux. Nous avons des intentions de prière pour nous. Maintenant, les intentions de prière de Dieu, là, qui s'en occupe? Bah oui! Dieu aussi a ses intentions. Dieu veut aussi que les choses se fassent sur la terre, par les hommes. Qui se préoccupe des intentions de Dieu? Nos intentions, on les étale. Donc, nous ne pouvons pas servir Dieu, aller plus loin si on n'est pas prêt à renoncer. J'ai fait près de 11 ans de ma vie dans un pays arabe, ben, mais si Dieu là, je n'avais pas compris qu'il fallait payer le prix pour Dieu, peut-être que je n'allais pas faire ce que j'ai fait. Parce que pendant ces 11 années, j'ai vécu dans le risque. Hein. J'ai le fait même de quitter l'Afrique, de chez moi, là, le Congo, pour monter au Maroc. Il fallait vraiment que lui-même me parle. Hein. Parce que dans un pays musulman, il n'y a pas d'église. Tu fais comment? Tu vas vers l'inconnu, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Mais tu dois obéir au Seigneur. Donc j'ai renoncé à des choses, j'ai fait des sacrifices. J'aurais pu sauver ma vie. Quand j'ai terminé ma formation de journaliste, mes grands frères qui étaient ici voulaient bien que je continue ma formation ici en France. Le Seigneur m'a dit, je ne bouge pas. J'ai renoncé pour le Seigneur, pour s'occuper de son œuvre. C'était en 2001, je suis diplômé depuis 2001 moi. Mais j'ai dû renoncer à cause du Seigneur. Il m'a dit, tu ne bouges pas parce qu'il y a des choses à faire encore au Maroc. J'ai écouté le Seigneur. Même si j'étais incompris par ma famille. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être prêt à renoncer à votre vie. Parce qu'en réalité, vous, quand vous entendez le mot renoncer, vous pensez que le renoncement de notre vie, c'est pour Dieu, c'est perdre la vie. Ça dit que c'est terminé. Alors que lui-même, il dit, puis tu renonces pour moi, là, tu vas retrouver. C'est pas que tu as tout perdu. Pour un temps, tu ne verras pas la chose, mais Dieu dit, tu vas retrouver. Mais c'est cette partie qu'on n'arrive pas à intégrer pour nous. Non, pourquoi je veux sacrifier ça? Alors que lui-même, il dit, il faut renoncer. Quand les intérêts, je le répète, quand les intérêts du royaume de Dieu sont engagés, tous les fils du royaume doivent répondre présent. C'est comme un pays. Le pays, il est en guerre. On veut que tous les patriotes se lèvent pour combattre en faveur du pays. Même dans la nature, on nous enseigne cela. Mais nous, les intérêts du royaume de Dieu sont engagés et nous sommes des missionnaires. C'est ça le problème. Alors que la nature nous enseigne que pour nos pays, les gens sont patriotes. Ils se lèvent pour sauver les frontières du pays, pour sauver notre terre. Les gens se lèvent, les gens sont même prêts à aller prendre des armes pour ça. Mais pour Dieu, nous disons que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu aussi a des besoins. Mais non, nous, on oublie qu'on appartient à un royaume. On oublie qu'on a une deuxième vie, c'est la vie avec le Seigneur. Et cette vie avec le Seigneur, on est souvent absent, démissionnaire. Et après, vous voulez que Dieu fasse quoi? Après, vous voulez que le Seigneur fasse quoi? Il va dire, vous n'êtes pas reconnaissant. Or, vous savez tous, frères et sœurs, il a dit que celui qui offre un sacrifice de reconnaissance le glorifie. Donc, la meilleure façon pour nous, je dis bien, la meilleure façon pour nous de voler la gloire de Dieu, c'est de ne pas être reconnaissant. Parce qu'il dit, si tu offres la reconnaissance à l'Éternel, tu le glorifies. Donc, si tu n'offres pas, tu voles la gloire de Dieu. Donc, vous voulez voler la gloire de Dieu? Continue à ne pas être reconnaissant. Continuez à être ingrat. Vous volez la gloire de Dieu. Or, si vous volez la gloire de Dieu, vous allez avoir des problèmes avec lui-même. Parce que personne ne peut voler sa gloire. Donc, si on veut être dans la démarche de voler la gloire de Dieu, on va se retrouver dans la situation de Lucifer. Et Dieu l'a précipité. Parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Donc, la meilleure façon de ne pas voler la gloire de Dieu, c'est de pouvoir être reconnaissant à l'égard de ce que Dieu il a fait. Et de lui témoigner toujours notre gratitude. La gratitude commence déjà par le souffle de vie qu'il nous donne. Tu te réveilles le matin, merci Seigneur pour la vie. Ça, on le fait. Ça, au moins, c'est le rituel, merci pour la vie. Mais la vie en question, on oublie que quand Dieu nous la donne, c'est pas que pour nous. C'est pour lui, en vérité. Parce que ce qui est important, c'est comment toi tu vas accomplir le plan de Dieu sur la terre. C'est pas comment tu vas faire tes projets sur la terre. C'est comment tu vas accomplir le plan de Dieu sur la terre. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'à travers ta vie, il a un plan. Dieu ne te garde pas en vie pour que tes projets à toi réussissent. Dieu te garde en vie pour que ses projets dans ta vie réussissent. Parce que tu n'es qu'un instrument. Mais comme on ne comprend pas ça, on est en vie, on est là dans nos business, dans nos affaires, et on dit que Dieu va juste cautionner ce que je vais faire. C'est faux. Nous sommes sur cette terre pour faire sa volonté. Et il y a déjà un plan, il a un projet déjà. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun. Il dit, je connais. Même si toi, tu ne sais pas, tu t'attends, Dieu dit, je connais. Ce qui fait qu'il y a certains événements dans ta vie qui sont là, c'est parce que c'est Dieu qui orchestre ces événements-là, parce qu'il a un projet pour toi. C'est à la fin, tu te rends compte, donc tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, c'était pas atteindre le but de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Amen. Donc chacun de nous doit savoir que même si tu l'ignores, Dieu lui a dit un projet, il poursuit un but dans ta vie. Même si tu ne le sais pas, même si tu n'as pas révélé encore tout, mais la Bible l'affirme. Il a un projet pour, il dit pour chacun. Ce n'est pas un projet collectif, c'est un projet individuel. Chacun de vous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Donc si Dieu te garde en vie, ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé avec toi. C'est tout, ce n'est pas pour que tu sois là sur la terre et que chacun de nous fasse le malin pour dire non, 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 non. Dieu n'a pas encore terminé. Si on est encore en vie, c'est que ce n'est pas encore terminé. C'est pourquoi quand je le chante et quand nous le prions, il faut le dire avec assurance. Si tu as encore envie, c'est que ce n'est pas encore terminé. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espérance pour toute âme qui vit. Tant que tu vis, c'est que c'est encore possible. Tant que tu vis, c'est que Dieu va encore faire. Sinon, si tu n'étais plus utile sur la terre, Dieu ne renouvellerait pas le souffle de vie. Parce qu'il te trouve inutile, donc il te laisse comme ça, débrouille-toi. Mais si Dieu renouvelle, le souffle de vie, c'est que Dieu veut encore faire dans ta vie. C'est à nous de le comprendre, de l'intégrer, de le réaliser. On n'est pas seul, Dieu, là, on est dans un projet de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Donc quand il te donne la vie, là, c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Donc arrêtons avec nos excuses devant Dieu. Ça ne marche pas. Parce qu'en vérité, il sait lui-même que tu aurais pu procéder autrement. C'est que tu as juste fait les mauvais choix, tu as juste pris les mauvaises décisions et tu as fait la mauvaise organisation de ta vie, c'est tout. Mais en vérité, personne ne peut dire, non Seigneur, je n'étais pas là parce que je n'ai pas pu faire ça, parce que tu ne peux pas, parce que devant Dieu, tu ne peux pas lui expliquer parce que lui connaît. Tu peux expliquer au pasteur, mais pas à Dieu. Lui connaît, donc, mais non, comme lui connaît, là, tu vois, tu sais quel mot pour convaincre Dieu alors qu'il sait que tu aurais pu faire autrement. C'est pas possible. Donc arrêtons les excuses, s'il vous plaît, par rapport au royaume de Dieu. Encore une fois, lorsque les intérêts du royaume sont engagés, sont menacés, que les fils, les citoyens du royaume de Dieu répondent présent. Faites votre part avec la force que Dieu vous donne. Parce qu'on n'a pas tous la même force, mais avec la force que Dieu vous donne, faites votre part. Et puis, il faut vraiment, s'il vous plaît, réaliser qu'il est Dieu. Vraiment, il faut que ça soit, ça rentre, ça donne. C'est comme la nivakine, ça passe difficilement, mais il faut que ça passe. Il est Dieu. Maintenant, comment vous voulez qu'il vous le démontre? Je ne sais pas comment il va faire encore dans chacune de vous, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour que vous soyez rassurés qu'il est Dieu? Vous voulez qu'il fasse quoi? Pour ceux qui cherchent le boulot, pour ceux qui veulent se marier et tout cela, donc vous voulez qu'il vous donne le mariage? Donc, il va donner le mariage à Asita, et là tu sauras qu'il est Dieu, c'est ça? Il va donner le travail à Eric, c'est là que tu sauras qu'il est Dieu? Il va donner peut-être la santé à un tel, c'est là que nous sommes vous? Donc, vous voyez que c'est comme si Dieu a un commencement. Si c'est ça qu'on attend, ça veut dire que Dieu a un commencement. Or, Dieu n'a pas de commencement. Il ne va pas attendre vos situations pour être Dieu. Il est Dieu avant même que vous soyez. Donc, si on comprend ça, mais on n'a pas besoin de dire oui, il faut que Dieu me prouve. Il faut que Dieu me montre, oui. Non, on n'a pas besoin qu'il nous prouve qu'il est Dieu. Parce qu'il est. Et quand il est, il n'a pas besoin de le prouver. Nous, on doit tout simplement reconnaître, comme il a dit, arrêtez-vous, sachez, en d'autres termes, reconnaissez que je suis. En tout temps, je suis. Dans vos maisons, je suis. Sur le travail, je suis. Dans vos pensées, je suis. Quand vous critiquez quelqu'un là, je suis là aussi. Je suis. Le Dieu qui est présent. Et donc, quand je prends conscience qu'il est présent, quelqu'un qui est tout le temps présent, regardez même dans les supermarchés, pour certains, je pense, je parle de certaines personnes, hein. Il y a certaines personnes, dès l'instant où il y a des caméras, si tu es venu pour voler, là, ça te discipline. Hein. Ça te discipline. Tu veux la Bible? Tiens. Ça discipline, parce qu'il y a des caméras. C'est pas ça. Donc voilà. Donc c'est la même chose. Télésurveillance, vidéosurveillance. Vous savez qu'il y a des caméras partout. Psychologiquement, ça bloque certaines personnes. Ça bloque certaines personnes. Mais bon, mon petit, lui, il cherche quoi ici là? Il cherche une enveloppe. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave, on verra ça à la fin, je suis à la fin, dans tous les cas, je suis à la fin de mon message. Donc c'est ça, psychologiquement, quand vous êtes au courant qu'il y a plein de caméras, ça vous règle. C'est psychologique. Même un grand voleur, quand il sait qu'il y a des caméras, il va avoir un peu peur. Mais quand il n'y a pas de caméras, il va avoir un autre comportement. Mais c'est la même chose, si nous sommes conscients que lui, il est présent partout là. Donc, il y a la caméra tout le temps là. Il y a la caméra tout le temps, mais tu ne peux pas faire comme s'il n'y a pas la caméra. À moins d'être vraiment quelqu'un qui a, je ne sais pas, un cœur comment. Mais généralement, il a été démontré que les gens, face à la caméra, ils perdent leur naturel. C'est rare d'être totalement naturel quand tu sais qu'il y a une caméra qui est braquée sur toi. C'est rare. Parce qu'il y a une influence. Tu dis, ah, les gens vont me regarder. Même les plus grands journalistes, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont passé dans la profession, chaque fois qu'ils présentent le journal, ils ont toujours le trac. Pourtant, sur le plateau, là, ce sont ses collègues. Hein. Mais Pourquoi? Parce que psychologiquement, il se dit que des millions de personnes le regardent. Donc, ils disent qu'il y a, le trac est toujours là. Même s'il a fait ses 20 ans. Parce que la caméra. Donc, ça influence le comportement. Nous également, voyons Dieu, peut-être si on veut que ça soit un peu plus fort. Mais voyons Dieu un peu comme, voilà, une caméra en permanence sur notre vie. Si vous prenez conscience qu'il y a, ce regard divin en permanence sur notre vie, peut-être ça va nous discipliner. Peut-être qu'il faut prendre des images, parce que l'être humain a besoin de symboles, pour peut-être que ça lui marque. Hein? Et je vais terminer avec cette histoire qu'on nous racontait de ce papa-là, qui souvent inculquait les valeurs à son enfant, pour dire voilà, Dieu il est présent partout, Dieu. Et puis un jour, il va partir avec son enfant, il avait faim, il avait une crise, une famine comme ça. Et donc, ils vont aller quelque part pour aller voler dans un champ. Et donc, le papa, il demande à son fils de faire le guet, de guetter si après que le Dieu est arrivé, lui, il va aller prendre le champ. Et pendant que le papa, il prend ses choses, à un moment donné, il entend l'enfant dire, papa, il y a quelqu'un qui nous regarde. Alors le papa, il panique, il dit, mais où? Il dit, mais il y a Dieu qui nous regarde. Lui-même, il a enseigné à l'enfant, hein. L'enfant lui renvoie ça. Toi, tu viens voler. Tu as dit que Dieu nous voit partout, non? Mais Dieu nous regarde en antenne de voler. Mais voilà, vraiment, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Nous ne sommes pas amnésiques, n'oublions pas. Voilà, ce sont des histoires, mais que ça nous fasse réfléchir. Alors, on va s'incliner, on va prier le Seigneur qui nous aide à ne pas oublier, qui nous aide à ne pas être ingrat, que Dieu nous aide à ne pas être amnésique, à ne pas manquer de gratitude.